feuille blanche.
Il vend ses entreprises comme il change de chemise, ou presque. En 2013, il monte Advisors qu'il revend à Camplify en 2018. Il lance une nouvelle activité en 2019 et suivi d'un LBO il y a une semaine. Il nous a promis du lourd, Jérémy Ben Dayan, et ça commence en musique, le lourd. Tu me fais kiffer.
Tu kiffes ou pas? J'adore cette musique.
Ça démarre bien.
Yes, c'est
bon
ça.
Bon réveil matinal.
C'est ça qu'on aime.
Pourquoi cette musique?
Écoute, cette musique, elle est entraînante. All I do is win, tout ce que je fais, c'est gagnant, ça gagne. Et en fait, moi, je suis pas quelqu'un de, tu sais, par nature, de hyper, j'ai pas hyper confiance en moi. Je suis pas quelqu'un de, tu vois, de depuis que je suis jeune, je suis un peu timide. Et c'est vrai que cette musique, elle t'entraîne tout de suite, elle te fait dire que t'es le meilleur. Tu vois que tu vas gagner, tu vas réussir. Et quand t'écoutes ça le matin, t'as une grosse pêche, tu dis que tu vas gagner, tout ce que tu fais, ça va réussir. Et je me rappelle, alors c'est une vieille musique, elle a plus de, je crois, 15 ans. Je l'écoutais quand j'étais jeune, quand j'étais un peu timide. Maintenant, j'ai pris de l'assurance, mais je l'écoute toujours aujourd'hui. Ça me rappelle ces moments passés où, voilà, tu vois, j'étais un peu plus timide, on va dire.
C'était ta morning music routine.
C'est ça.
On va voir après, parce que du coup, j'ai déjà ta playlist.
Tu vas rigoler. Et dès qu'on signait des clients aussi chez Advisors, mon ancienne boîte, on mettait cette musique pour se rappeler, tu vois, pour avoir la rage de vaincre. On disait, OK, on a gagné, on enchaîne.
Donc, on est là ensemble avec mon compère Renaud Granier.
Salut Thomas.
Pour découvrir la folle aventure de la vente d'Advisors, que t'as parlé, je crois, déjà de ton associé, Franck.
Yes. Alors, c'est pas un associé, c'est presque un frère. Hein. On se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est un vrai ami, c'est un vrai copain. J'ai fait toutes mes aventures avec lui entrepreneurial et je me vois pas aujourd'hui faire un business sans lui. C'est un peu ma femme dans le business, si on peut dire comme ça, et je l'adore, tout simplement.
Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet, la revente d'Advisors donc à l'entreprise Camplify. J'ai bien prononcé?
Exact.
Parce qu'à lire, c'est pas évident.
On est d'accord.
Et à appeler encore moins.
C'est dur pour les commerciaux. C'était dur pour les commerciaux aussi.
Ouais, j'imagine. Alors, contactez-moi @QWAM. C'est pas mal au Scrabble. Et donc, cette boîte, tu l'as revendue à 12 millions.
Exact.
On va découvrir aussi que tu as refusé une offre à 20 millions. On va comprendre très vite pourquoi. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit flashback le jour de la signature. Tu te réveilles. Tout à l'heure, tu avais ta morning music routine. Mais bon, ce jour-là, il y avait des petites nouveautés dans ta vie qui font que c'était ça.
C'est moins excitant, hein? C'est moins motivant.
Moi, c'est mon quotidien en ce moment.
Ouais, moi aussi, moi j'en ai...
Ça motive, mais ça, sur une autre façon.
Alors, c'est mignon les pleurs de bébé quand c'est le tien. Alors, par contre, pour les auditeurs, là, c'est peut-être pas très agréable.
On est d'accord.
Donc, jeune papa.
Exact. Bah, j'ai deux enfants, deux petits garçons. Et c'est vrai que quand t'es entrepreneur, bah, c'est des choses qui sont quand même difficiles à assumer parce que tu te couches souvent tard, tu travailles tard, t'as besoin d'un moment de détente. Et la nuit, ça te ressource, tu vois. Mais quand t'es réveillé la nuit à 2h du matin, à 4h du matin, à 6h, etc., c'est un peu complexe.
Et c'est pile dans la période.
C'est une petite anecdote, ouais. c'est le réveil. Moi, j'ai pas de réveil. En fait, j'ai pas besoin de réveil puisque j'ai mes fils qui me réveillent tout seul. C'est des horloges naturelles, donc c'est un petit
ça peut être dangereux un jour. Hein. Nous, ça nous est arrivé une fois.
Ah, mais moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Une fois,
tu peux pas le retarder, celui-là.
Tu te retrouves, ouais.
On est d'accord.
Donc, on est le jour de la vente.
Yes.
Et donc le réveil, un réveil que tu ne peux pas retarder, il se passe quoi? Tu peux nous raconter un petit peu cette routine de jeune papa le jour de la vente?
Écoute, le jour de la vente, bah, tu te réveilles, tu t'occupes forcément de ton fils, et après t'es forcément excité, c'est quand même un grand jour pour toi. Mais mine de rien, tu l'idéalises pas tant que ça, parce que en fait une vente, c'est des mois de travail. C'est-à-dire que c'est pendant des mois, tu vas travailler, tu vas négocier, tu vas discuter, tu vas avoir des hauts, des bas, et finalement, tu te dis, bah non, finalement, je vends pas, j'ai pas l'offre que je veux, et finalement, je vends. Et en fait, c'est tellement de péripéties que quand le jour arrive, bon, tu te dis, il peut tout se passer, quoi. Tu vois, c'est un peu
Mais
comme.
Tu te dis encore que ça peut pas se faire?
Il y a. Bah, t'as toujours des discussions, t'as toujours, je me rappelle pas exactement dans les détails parce que ça fait quelques années maintenant, mais t'as toujours des petits sujets, alors pas de discorde, mais un point qui allait pas et qu'on devait pas, dont on devait parler lors de la signature, ou un détail où les avocats ont signé hier soir un truc et il fallait en reparler à l'oral. Tu vois, il y a toujours ce petit truc, donc c'est, tu te dis pas que je vais pas signer, tu te dis ça y est, c'est fait. Mais en fait, moi j'ai pas idéalisé le truc en mode ça y est, c'est fini. Tu vois, je me disais bon, c'est un nouveau chapitre, c'est des mois de travail, ça continue. Et donc au final, c'est une journée, je vais pas dire comme les autres, mais c'est une journée où tu te lèves en tant qu'entrepreneur, t'as plein de défis à relever, c'est un nouveau défi. Tu te lèves et t'arrives chez ton avocat pour signer.
On a eu à ce micro des entrepreneurs où c'était un peu plus complexe le jour J, ils s'étaient raccrochés au nez la veille, je pense à Ludovic Curo notamment.
D'accord. Ils ont eu quoi, pardon ?
Ils s'étaient raccrochés au nez avec le repreneur, juste la veille au soir, minuit.
Ouais. C'est chaud.
Des questions de droit de propriété qui n'étaient pas résolues le jour J. Donc,
d'accord.
Lui, moi, c'était suspense entier.
Moi, c'était moins folklore, mais du coup, bon, t'arrives jour de la signature, grand bureau, sympa avec les avocats, et nous, ça s'est plutôt bien passé. En fait, on est tombé sur un repreneur qui est un amour que j'adore, qui s'appelle Cédric Rény, et qui était hyper bienveillant, et qui est un mec, voilà, qui a toujours voulu nous avoir avec lui, et je vous raconterai après, mais c'était pas l'offre la plus élevée en tout cas, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il s'est battu pour nous avoir, et il s'est même battu pour nous garder, c'est-à-dire que lorsqu'on a accepté son offre,
il était un peu en mode,
c'est ça, il y avait la rage de vaincre. Il avait cette envie de nous avoir avec lui, donc son offre était moins élevée, mais que nos autres que l'autre offre qu'on avait, mais il était motivé pour faire le deal avec nous.
Parce que vous aviez des critères déjà avec ton associé, vous en aviez parlé, vous allez dire on acceptera ça, pas ça, etc.
Tu devances trop.
Oui, mais bon, il en parle. De la transition.
Mais oui, évidemment. mais on a un contrat de lecture avec
d'accord,
nos auditeurs.
D'accord, excusez-moi, je comprends.
Mais cette question, on la garde. Ta réponse, évidemment aussi. On revient vraiment sur le jour de la signature.
Yes.
Tu mets une chemise, t'es pas très chemise.
Je mets une chemise, je suis pas très chemise. Pourquoi ? Parce que je pense que dans ces moments-là, ça se fait un petit peu. Voilà, donc je mets une chemise. Mais je reviens de vacances, donc j'ai un peu de couleur, tu vois. Donc c'est plutôt un très bon jour pour moi. C'est pas un moment stressant. On est entre gens bienveillants, ça s'est bien passé. On est avec nos avocats, ses avocats. C'était plutôt cool. Je crois que son avocat était un peu plus relou, donc.
mais autour de la table concrètement, si tu peux nous raconter la scène.
Autour de la table, j'ai Franck, mon associé. Il y a Cédric, le repreneur, moi, les avocats qui discutent un peu entre eux. Et c'est assez simple, hein. On prend un papier, on le signe, on sourit, on fait une photo et.
C'est une signature électronique. Ouais. Tu parles de papier.
Alors, je me rappelle bien des choses, mais je crois qu'on a signé en papier un truc. Je me rappelle d'une signature papier. On a signé il y avait un
mais
truc.
Mais pas pendant des heures avec des milliers de pages.
Non, hyper, assez rapide. Je me rappelle de ça.
Un copain à toi, je crois, qu'on a reçu à ce micro aussi, Vincent Klingbeil. Lui, il vient avec son stylo. C'est un fan de stylo. Toi, t'avais pas assez.
Écoute, moi, si tu veux, pour te raconter la relation que j'ai avec mon associé, c'est vraiment le mec qui est plutôt sur la partie financière. Donc, c'est vrai que c'est lui qui structure toute la partie deal chez nous, qui est dans la négo. Donc, lui, forcément, il a beaucoup plus de pression que moi. Moi, je viens avec une attitude beaucoup plus détendue et je suis plus détaché parce que c'est pas ma partie. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, t'as souvent... tu vois, une relation avec ton associé de où chacun a ses responsabilités. Donc moi, j'avais pas ces petites anecdotes. Je pourrais pas te raconter ces petits détails, ces petits moments croustillants parce que je l'ai vécu vraiment. Mais c'est peut-être un peu ou c'est peut-être un blocage, tu vois. Mais comme un jour normal, j'essaie de le prendre comme un jour normal. Ce qui s'est passé après, peut-être j'aurais des choses à te raconter qui peuvent être plutôt plus croustillantes. Mais sur le moment de la signature, si tu veux, c'était pour moi un jour comme les autres. Vraiment, je l'ai pas mystifié. Et à côté de ça, tu vois, ok, j'ai pris de l'argent, je suis content, mais j'ai pas idéalisé le truc.
Et sur cette partie-là, justement, on parle de cession, de signature, il y a un transfert de fonds qui se fait. Tu actualises ton appli bancaire. Est-ce que ça te fait quelque chose? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là?
Alors, il y a Franck qui me dit, putain, on a reçu les fonds, il me montre le téléphone, il me montre la BNP, il me tape dans la main. c'est des trucs tout cons, mais
tu dis ça. Mais ça, c'était le compte de Franck, il fallait vérifier le tien.
Non, c'est pas le compte de Franck, parce que c'était le compte de notre holding commune.
Okay.
Et comme je t'ai dit que c'était Franck le financier, c'est Franck qui gère.
Tout le monde n'a pas une holding commune.
Ouais,
c'est,
ouais.
Tu parlais de ta femme dans le business, c'est vraiment
c'est
l'idée,
ça.
Quoi.
En fait, Franck et moi, on a une holding à deux. Et donc, on fait tout ensemble. C'est vrai que maintenant, comme on a des vies, on est chacun papa, on a des projets de vie aussi chacun. on se pose la question de est-ce qu'on va pas séparer un peu les holdings pour pouvoir faire un peu aussi ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'on a créé une holding commune, donc on est lié dans le business, on se fait confiance, totalement confiance.
Mais à l'époque, juste pour finir sur cette partie, vous avez rien pris en perso, quoi. Full holding.
Full holding, alors si tu récupères toujours un peu, tu te verses un peu de cash, tu payes, je sais plus s'il y avait la flat tax à l'époque peut-être,
non.
Pas encore.
Non.
On a payé nos impôts, je me rappelle plus combien, mais on a récupéré un peu de sous et ça nous a permis de vivre, d'acheter un premier appart, vivre un peu mieux, mais on vivait déjà bien, on avait nos salaires, donc.
Mais la majorité en holding commune.
Majorité en holding commune pour se dire ok, on va investir ensemble, on va essayer de faire fructifier, il faut pas qu'on s'appauvrisse, on a gagné des sous, mais faut les conserver et comment on va les faire fructifier, comment on va réinvestir.
Alors ça, on n'oubliera pas d'en parler tout à l'heure. Ce que je te propose, c'est de faire un vrai flashback. On va parler de tout ce temps de négo et justement aussi de l'offre à 20 millions, je crois, que vous avez refusé. Pour nous parler de toute cette période, tu as choisi... J'ai les mâchés du TikTok, du coup c'est en boucle.
Voilà, ceux qui aiment TikTok, ils connaissent cette musique. Allez, c'est un peu le combat, on va dire.
Ouais, je garde l'image, c'est pas mal. Hein.
et c'est pas un combat. C'était pas vraiment un combat, nous, qu'on a connu. J'ai pris le schéma du combat parce que ici c'est une musique qui fait un peu combat, bagarre. Mais en réalité, c'est un combat intérieur. C'est-à-dire que tu te dis, putain, je vais lâcher mon bébé, j'ai monté cette boîte, j'ai monté cette structure, il faut que je trouve le meilleur partenaire, parce que je veux que ça vive, je veux que ça perdure, je veux que ça se développe quand même.
Je veux que ça me survive.
Exactement. Et je veux que dans quelques années, on se dise, bon, ce mec-là, il a vendu une vraie tôle, il n'a pas vendu un truc qui s'est effondré juste
Advisors,
derrière.
Advisors, c'est quoi? Parce que j'en ai jamais entendu. Ouais, 10 ans après, c'est quoi Advisors?
Advisors, en fait, c'est une agence média. On était pure player dans l'achat de mots-clés sur Google. On gérait des campagnes, donc Google Ads. Et c'était une époque aussi où tu avais, il y a 10 ans maintenant, presque 10 ans, quand on a monté cette boîte-là, il y avait pas mal de grosses agences, des Havas, des Publicis qui faisaient des campagnes digitales, mais qui géraient pas très bien le digital.
Vous n'avez pas resté sur l'offline.
Beaucoup de offline, voilà. Et donc, si tu veux, Advisors, ça venait en tant que spécialiste sur ces métiers. Donc, on a réussi à capter pas mal de business à cette époque-là, puisque les directeurs digitaux voulaient des vrais pure players, des vrais spécialistes sur l'achat de médias. Et notamment sur Google, parce que c'était le premier canal d'acquisition à l'époque. Il y avait très peu de vidéos, pas de TikTok, pas de... Et
est-ce que tu te rappelles du day one, du coup, de la boîte? Pourquoi vous l'avez monté avec votre associé
Le jour 1, en fait, moi, j'étais freelance. Je voulais être assez libre. J'avais pas envie de monter de boîte. J'avais envie de monter ce business-là, mais en tant que free. Et je vois Franck qui est un copain et il voulait monter un site e-commerce pour la pharmacie de sa mère. Lui à la base il est trader, il bosse en finance, mais ça le faisait chier de bosser en finance. Et donc on se voit autour d'un café, il voulait monter un site e-commerce. J'ai dit putain, la pharmacie c'est compliqué, tu peux pas faire d'achat média, faut faire du SEO, du référencement naturel. Ton projet est compliqué. Il me dit il en démord pas, donc il veut monter le truc. Et je dis bon, tu sais quoi? Moi j'ai envie de monter une boîte aussi. Viens, on essaie de voir ce qu'on peut faire ensemble. Viens, on s'associe.
Et notre premier client c'est ta mère. C'est un peu l'idée.
C'était presque ça. En fait, je lui dis, non, en fait, tu montes ton site e-commerce de pharmacie, moi, on monte l'agence ensemble, et ce qui marche le mieux, on pousse. Et finalement, l'agence a cartonné, il a jamais monté le site de sa mère, d'ailleurs.
Qui lui en veut encore.
Qui lui en veut encore, elle manque de visibilité, la pauvre. Hein. Karine, si tu nous entends, on t'aime. Voilà. Mais c'est comme ça. Et le jour 1, c'est un jour où on arrive à Pantin, dans une zone industrielle, pour le coup, assez dégueu. Dans un bureau, il y avait des mecs qui vendaient du tissu, des trucs comme ça. Au deuxième étage, un petit bureau, et on travaille et on démarre la boîte.
C'était votre garage à vous.
Exact. Tu commences. En fait, t'es assez humble. Tu commences petit. On veut pas prendre des gros bureaux. On commence petit et on a galéré à choper nos premiers clients parce qu'à l'époque, on n'avait aucun réseau. Vraiment zéro réseau. Que tu démarres, t'as pas de réseau.
Rappelle-moi l'âge que t'as à l'époque, 2013.
23 ans. Juste après le 22, 23 ans, juste après la fac. Du coup, t'as pas de réseau aussi. T'as le copain de papa, des trucs comme ça, mais ça te ramène un ou deux clients. Donc on se dit, ok, qui sont les annonceurs qui ont besoin d'achats médias sur Google? On va pas aller chercher les gros annonceurs. On a commencé par les plombiers. Donc on a tapé sur Google plombier Paris. On a vu ceux qui étaient mal référencés en 8e page. On les a appelés un par un. Et pendant 3-4 mois, on a appelé tous les plombiers, les serruriers de Paris. On a signé un mec qui au final nous a jamais payé. Tu vois, c'était le pire. il nous a planté. Enfin bref. Et donc ça, c'est le début de l'aventure. C'était un peu galère. Et puis finalement, ça a démarré au bout d'un moment.
À un moment, ça débouche.
Au bout d'un moment, tu trouves le truc. Et on a rencontré Hervé Bloch, que tu connais aussi, qui a monté son événement Les Big Boss. On a fait des choses qui ont été payantes et qui nous ont permis de construire ce premier réseau.
J'ai l'impression, alors du coup, c'est un poke pour Hervé, mais qu'il en fait des exits derrière les Big Boss.
Ouais, franchement, ouais. Hervé, il a été bon. Hein. Hervé, si je te raconte, Hervé, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de l'événement Les Big Boss, qui est un événement assez lourd. Et lui, c'était
qui regroupe des prestats comme vous, exact, sur des sujets digitaux, et qui les met en face de ce qu'ils appellent les Big Boss. Exactement. Qui sont les directeurs marketing, notamment des grands groupes.
Exactement.
Donc, permet le pont pour construire le premier cercle.
Premier cercle, voilà, de clients, de réseaux. Et ce qui était très cool, moi, je vais raconter l'anecdote qui était assez drôle. C'est que, drôle, je sais pas, mais vous me direz. Mais quand
tu sais que je prépare des rires, c'est des faux rires, comme dans les sitcoms américaines.
Non, en fait, c'est pas drôle. Je sais pas pourquoi j'ai dit drôle, mais, à la base, petite boîte, donc Advisors, on était 4 employés au tout début, et dans ce bureau à Pantin. Et du coup, tu me fais rire.
Il va le faire. Hein.
Et du coup, on avait l'événement les Big Boss venait de se créer. Il y avait déjà eu un premier événement, mais c'était encore tout petit. Et Hervé Bloch était assez connu. Et il m'appelle via un de mes contacts et il me dit voilà, il y a mon agence qui m'a il y a Publicis qui devait venir, Performix qui devait venir, ils ont pas pu venir dans le SIA, j'ai été planté par JVWeb qui peut pas venir aussi, est-ce que ça t'intéresse, on m'a dit que tu débutais, mais bon, j'ai un spot pour toi, ça vaut 15 000. Moi je démarrais, j'étais 15 000 balles,
je les ai pas, en fait
j'ai rappelé mon premier plombier.
Non, j'ai dit, alors je parle à mon associé Franck et j'ai dit, Hervé, allez, fais-moi un prix et tout, je te donne 7000 balles et je te donne 20% de tout ce que je signe. Tu vois, donc.
C'est comme ça qu'il a créé le modèle de
ouais,
je prends une
com.
On
est les premiers à la perf.
OK.
On est les premiers à la perf. Et il me dit, deal. Et puis, je parle à Franck, mon associé, et je lui dis, t'es chaud pour venir avec moi? Il me dit, oh putain, j'ai ma remise de diplôme, il y a ma grand-mère qui vient, je peux pas venir. C'est les...
Pardon. On va le garder celui-là.
Donc, il y a ma remise de diplôme, je peux pas venir à l'événement et tout, tu dois y aller seul. Et un événement du digital, je connais personne et tout, donc moi je rappelle Hervé, je dis Hervé, finalement il peut pas venir mon associé, 3005 et 25%, t'es chaud? Il me dit bon, tu me fais chier, allez vas-y, ok, d'accord. Et puis je me retrouve à cet événement et je me retrouve assis à côté de directrice Digital France d'Airbnb, Locason, plein de gros annonceurs. Et en fait j'ai super bien signé, c'est-à-dire j'ai signé 5 annonceurs, j'ai été, je pense, pas mauvais. Et Hervé m'a dit, putain, t'es un bon prestat, les autres prestats, ils galèrent à signer. Il a rentré beaucoup plus d'argent au final à la perf avec nous, parce qu'on avait signé des gros contrats. Il me dit, bah, viens, on fait un deal 100% perf. Et puis après, j'ai signé avec Hervé un contrat 100% perf jusqu'à la vente de ma boîte, qui m'a permis de construire ce premier cercle, ce premier réseau, et permis aussi de développer cette entreprise. Et puis, Franck est venu derrière avec nous aux suivantes.
Tout à l'heure, tu parlais des gros concurrents, les principales agences, les plus grosses que tout le monde connaît, qui à l'époque aussi perdaient de l'argent, acceptaient de perdre de l'argent sur l'achat média. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais...
Ouais, en fait, je me rappelle plus du client, c'est une grosse banque, mais ils avaient une agence... Et cette agence, en fait, elle gérait tout le offline. Et pour la gestion des campagnes Google Ads, pour la gestion du online, eux, ils prenaient moins 2%. J'ai l'impression d'être dans un talk show américain, tu sais. Ouais,
c'est ça.
Putain, je suis Gad Elmaleh, là. Je me sens Gad Elmaleh.
Pardon.
Elle prenait moins 2% pour gérer l'ads. Donc, nous, en fait, c'était facile de rentrer parce que t'arrivais. Alors, c'était difficile de rentrer parce que niveau prix, on était forcément plus élevé. Mais par contre, comme c'était très mal géré, on arrivait à faire nos trous.
Ok.
Donc, on comprend le contexte, on comprend comment vous grandissez très, très vite.
Ça bouge bien, ouais.
Et à un moment, il n'est pas question d'ailleurs de revendre la boîte, mais plutôt d'en racheter une.
Ouais.
C'est comme ça, en fait, que l'histoire commence.
Ouais, en fait, franchement, on se dit, putain, la boîte se développe bien, on est content, on a construit un beau réseau, on a des très, très beaux clients, on avait Tinder en client qu'on gérait dans le monde entier. C'était quand même lourd. Et d'autres, Ubisoft en Europe, donc des très beaux acteurs. Et on se dit, bon, c'est le moment de grossir. Il y a un métier qui est très synergique avec le nôtre, c'est le SEO, le référencement naturel.
Juste une parenthèse, vous vous faites approcher ou vous faites appeler pour des un peu draguer?
On se fait draguer, je me rappelle plus par qui, mais on se fait draguer. On a de temps en temps des appels, des mecs qui nous reniflent un petit peu, tu vois, qui nous appellent, des agences un peu plus grosses que nous, des mecs dans le business.
Prise de température, quoi.
Ouais, des mecs. Si, je me rappelle, il y avait un des mecs chez Full Six qui nous avait appelé, qui était très sympa, qui a fait plusieurs d'âges avec nous, qui nous avait rejoignés, nous, etc. Mais c'était un peu tôt. Et puis, on se dit, bon, on va développer. On a un super beau business. On va racheter des boîtes et on va racheter une agence de SEO, comme je l'ai dit. Et puis, donc, on rencontre un gars qui est super, qui s'appelle Nouma Bouragué, qui a le cabinet de conseil ICAP Partners, qui est une banque d'affaires. Et on l'approche pour discuter avec lui d'un rachat potentiel et de racheter une agence de SEO. Et on le brief. Puis finalement, il nous dit, mais les gars, vous avez un super bel EBIT. Ça vous tente pas de vendre? Moi, je peux vous vendre assez cher.
Donc, tu peux donner les chiffres à l'époque, chiffre d'affaires?
Ouais. À l'époque, le chiffre d'affaires, au moment de la vente, au moment de la vente, le jour J, on faisait à peu près 2,8 de chiffres. Et on faisait un très gros EBITDA, on faisait 1,8. Donc, on faisait une très grosse renta.
D'où la vente à 12.
Exactement. Et en fait, on faisait quand même un très bel EBITDA, donc ce qui était beau. On aurait pu vendre un multiple.
Est-ce qu'on rappelle quand même ce qu'est l'EBITDA pour.
Résultat net avant impôt.
Ouais.
C'est le résultat net avant impôt. Et la cession se fait souvent sur un multiple d'EBIT, pas que, mais c'est une des données qui est prise en compte.
Tu peux vendre un multiple et souvent un industriel va te racheter, alors dans nos métiers, hein, entre 6 et 8 fois l'EBIT, alors qu'un fonds de LBO qui fait une LBO avec toi va te racheter sur des valeurs un peu plus élevées. Te racheter entre 10 et 12.
Et plus de 60% des bits, c'est énorme. Hein.
C'était énorme. Et ce qui fait qu'on n'a pas vendu sur une valo non plus délirante, parce qu'on avait un trop gros EBIT et forcément le racheteur, il se dit, il y a un risque quand même. Quand il y a un trop gros EBIT, ils vont devoir structurer à un moment donné, ce qui est vrai après, puisqu'on a structuré et la croissance de l'EBIT est moins forte.
Oui, tu gagnes en charge fixe et tu perds en EBIT.
Exactement. Donc, forcément, t'as, le racheteur, il intègre ça en compte et donc le multiple va forcément baisser un petit peu. On n'aurait pas pu vendre 10. C'est pour ça qu'on a rendu un peu moins élevé, je ne me rappelle plus du montant, mais je crois que c'est entre 7 et 8, un truc comme ça.
Donc il vous dit, finalement, plutôt que cracher une boîte, c'est peut-être le moment de vendre.
Exact. Et à ce moment-là, du coup...
Là, vous dites quoi avec Franck, là?
On se dit, on peut la vendre 5 millions sur...
Mais viens, on va boire un café, on en discute, ou vous êtes en phase ou...
Non, je l'appelle, il me dit, ouais, je pense qu'on peut la vendre 5. Je dis, putain, c'est chambé, vas-y, let's go, on y va. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure de nos discussions avec Nouma, on se dit bon, en fait, c'est plus.
Et puis le chiffre d'affaires commence à monter, les bits continuent.
Exact. Voilà. Ça prend un an au final une vente. Hein. Quand tu commences à en parler et quand ça se fait, c'est presque un an de travail. Donc, c'est aussi, ça peut être aussi dangereux quand t'es entrepreneur parce que ça te défocus et donc de ton business et donc tu signes moins et donc t'es moins dans l'opérationnel et donc tu peux mettre en danger ton business. Donc nous, si tu veux. On voulait surtout pas ça. C'est pour ça que tu te fais accompagner par une banque d'affaires qui t'aide et qui te soulage. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un des deux qui prend plus ce rôle. C'était plus Franck qui gérait la relation. Moi, je l'ai vécu d'une autre façon, plutôt un peu plus de suivi. Et j'étais toujours dans l'activité, mais je voyais quand même l'activité bouger. Ça a pas dérangé le business. Mais c'est quelque chose qui te fait travailler plus tard, qui te chamboule un peu.
Parce que t'envoies un deck donc à la banque d'affaires avec des chiffres précis, donc faut les tenir ces chiffres-là. Et comme tu dis, faut pas se défocus quoi.
Exactement. Et tu mets des chiffres souvent, alors je vais pas dire élevés, mais tu mets des chiffres.
Doigt mouillé ou optimiste.
Tu mets quand même des chiffres optimistes. Pourquoi? Parce que ton but c'est de valoriser quand même ta boîte un peu de façon chère, et donc tu vas pas être dans tes perspectives. Tu vas te dire, je mets quand même quelque chose d'ambitieux. Qui est dur à atteindre, voire même presque impossible, mais je l'aimais. Sans mentir, tu te dis, voilà, j'ai une croissance, j'ai fait x2 l'année dernière, bah, cette année, je vais faire x2. Alors qu'en réalité, plus tu grandis, plus ta croissance, elle est réduite. Et ben, nous, ce qui est fou...
Est-ce que le risque, c'est pas d'atteindre, du coup, de ne pas pouvoir atteindre ce qu'on a dit et de pas tout toucher?
C'est un risque, mais en fait, nous, ce qui est fou, c'est que nous...
Ça vous a galvanisé.
Eh ben, on l'a fait, on l'a défoncé, l'objectif. C'est-à-dire que c'est pas qu'on l'a réussi, c'est pas qu'on l'a atteint, c'est qu'on l'a vraiment défoncé. Je me rappelle plus des chiffres exacts, mais... Yeah. On va la remettre, cette musique, elle est bonne, hein. Tu l'as kiffé, hein. Mais en fait, t'es galvanisé.
J'ai changé de morning routine.
Donc, c'est les limites que tu te fixes aussi. Donc,
fixes une limite et au final, tu la défonces parce que tu tapes. T'as peur, tu stresses. Quand t'es dans le business, je pense que toi aussi, tu l'as connu. Et quand tu fixes une limite et que tu te dis, tu partages des trucs, ça t'engage aussi. Et au début, tu te dis, bon, voilà, je le mets pour le papier, mais après, tu veux tout faire pour l'atteindre. Donc, nous, on y arrive, on se tape, on atteint les chiffres, on les défonce. Et donc, c'est des super résultats pour le repreneur. Et la banque est très contente parce qu'elle va pouvoir très bien nous valoriser. Donc, au début, quand tu voulais vendre 5, finalement, tu te dis, bah, je vais vendre deux fois plus cher.
Alors, je reviens juste sur un point. Le choix de la banque d'affaires, il se fait comment? Réseau perso, un pote?
Choix que de la banque d'affaires,
Google search. On a pris les ouais, c'est ça.
Non, assez simple. Tu vas voir, c'est assez simple. Et ça peut donner des indications à ceux qui veulent vendre leur boîte. Nous, ça, c'est un truc qui a bien marché pour nous. On voit un de nos concurrents qui se vend une année avant et il utilise une banque d'affaires. On appelle la même. Tout simplement.
Tu peux donner des noms?
Effilab.
Ok.
Effilab,
spécialisé,
il avait vendu
dans ce secteur
dans
d'activité.
Dans le... je crois que c'était Effilab, ouais. Non, non, l'achat média.
Okay.
Google, Facebook. Mais je crois que, je sais plus si c'est Effilab ou Hudson Wall qui avait vendu à Effilab, un truc comme ça. Bon, enfin bref. Mais il y avait eu un deal et c'était Ika Partner. Et donc, du coup, on a appelé le même gars. On s'est rencontrés, mais on l'a appelé tout de suite. C'est-à-dire qu'on l'a appelé au moment où il a vendu Effilab. C'était, je crois, 2 ans avant la vente. On l'a rencontré, il nous a dit, les gars, vous êtes un peu petit. Mais on a commencé à discuter avec lui. Et finalement, un an après, on l'a appelé, on lui a dit, c'est bon, on est prêt. Mais à ce moment-là,
lui,
on
vous a donné
acheter...
des métriques, en fait, importantes pour vous.
Exactement. Il nous a dit, les gars,
passage, etc.
C'est les bits, c'est un multiple de les bits, il faut valoriser les bits, etc. Donc, on s'est dit, OK, d'accord, on a compris. Et dès le début, tu vois, on s'est, et en fait, c'est très important quand tu fais une vente. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec un mec qui est hyper inspirant. Donc, je raconterai peut-être l'histoire après. C'est, un des associés fondateurs de Momentum, qui est le fonds d'investissement. Je peux l'annoncer peut-être à maintenant, mais en fait, on a fait un deuxième cash out. C'est, on a fait une LBO minoritaire chez Splasher aujourd'hui
boîte,
sur ma nouvelle boîte.
Sûr.
Et on a fait un cash out qui hyper bien et on est hyper content, on est hyper fiers d'avoir Momentum en associé maintenant. Et un des associés fondateurs nous a raconté une histoire que j'adore. Il s'appelle Pierre. Et en fait, lui, il a vendu sa boîte 1 milliard. Et c'est chaud de vendre une boîte 1 milliard.
C'est tout?
C'est énorme.
Alors attends, non, c'est quand? Qu'on le reçoit sur ce plateau.
Franchement, c'est un crack. Il faut le recevoir.
Bah, tu vas faire le go between.
Ah ouais, il est énorme. Il a vendu sa boîte 1 milliard et il nous a expliqué comment il a fait. C'est extraordinaire. J'ai donné quelques clés et il nous a dit un truc que tu ne conscientises pas quand tu es entrepreneur, mais qui est génial. C'est qu'il te dit, ça se prépare. Il faut aller voir les racheteurs. Il faut aller les voir longtemps avant. C'est un peu comme la banque d'affaires. Tu veux voir. En fait, il faut parler longtemps avec eux. Parce que, en fait, toi, quand t'entrepreneur, tu dis, je vais faire de l'EBITDA, je vais faire de la renta, et puis après, je vais me mettre sur le marché, tout le monde va vouloir de moi. Mais ça se prépare pas comme ça. Parce qu'une vente, ça met longtemps. Et en fait, il faut la préparer longtemps avant de la vendre. Et donc, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il a identifié les 10 racheteurs potentiels qui voulaient le racheter. Il y en avait au Japon.
Qui auraient pu le racheter.
Exactement. Ouais. Il y en avait au Japon, il y en avait aux États-Unis, il y en avait partout dans le monde. Et lui, son job, pendant 2 ans, pendant même presque 10 ans, parce qu'il a enchaîné LBO sur LBO sur LBO jusqu'à vendre sa boîte. Et pendant presque 10 ans, il allait voir partout dans le monde ses racheteurs potentiels. Il a vendu une boîte d'insecticides, je crois, hein, de produits ménagers insecticides, donc c'est un truc qui n'est pas forcément hyper, hyper fun. Mais il allait voir les racheteurs potentiels et il leur disait, écoutez les gars, vous allez bien, bah écoutez, voilà, je voulais me présenter, est-ce qu'on peut faire du business ensemble? Pas vraiment en mode, vous me rachetez.
Voilà, ouais, peut-être des synergies.
Rentrer dans l'écosystème, rentrer dans les cases des futurs.
Est-ce qu'il y a des synergies? Est-ce qu'on peut bosser ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas des réseaux de distribution qu'on peut dresser ensemble? Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'il sait très bien que le mec en face, quand il voit le CEO de l'autre boîte, il sait très bien que le mec, il va le renifler après. Même si tu viens le voir en mode partenariat, il se dit, ce mec-là, il est pas mal, je vais le racheter. Ah, il fait des beaux chiffres, on va regarder, etc. Il conscientise le truc.
Et donc, du coup, sur LinkedIn.
Exactement. Et donc, du coup, tu commences à créer un réseau. Et donc, tout de suite, quand tu veux vendre ta boîte, il faut tout de suite aller faire un tour de table, aller voir ces mecs-là. C'est le conseil qu'il nous a donné, d'aller voir ces mecs-là et d'aller déjà démarcher les mecs en anticipant.
En tout cas, si on prend un peu de hauteur par rapport à ce que tu dis, c'est que ça se prépare longtemps avant.
Exactement. Et même, ça se prépare longtemps avant. Lui, il avait aussi un autre truc hyper intéressant. Il faut que tu l'interviewes. C'est un ceinture. Il va apprendre beaucoup de choses aux auditeurs.
Redis son nom.
Pierre. Je connais pas son nom de famille, je m'excuse.
Ça mais restera
c'est Pierre. Et c'est un des associés fondateurs de Momentum. Et en fait, je te le partagerai après, mais il est génial. Et ce qui est très cool aussi, c'est que tu vois, il m'a dit un truc, il me disait...
Lui, il a préparé son moment.
C'est ça. Il me disait, j'avais 10 métiers. On avait 10 produits différents, 10 verticales. Et le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que nos racheteurs, il n'y a que 2 verticales qui les intéressaient. Donc, on a jeté les 8 autres à la poubelle. Mais alors que ça faisait du chiffre, ça faisait de la renta. Parce qu'en fait, en créant ces verticales et en les mettant, ça perturbait les rachats. Donc, il fallait les jeter et pousser... ce qui intéressait le racheteur. Et
quelque
c'est ça...
chose de simple à comprendre.
Exactement.
Il a pimpé en fait une boîte ultra vendable. Et...
Exactement. Il a créé un paquet cadeau. Il a dit faut amener le paquet cadeau. Il m'a dit c'est ça. Et donc si tu veux nous alors à un autre niveau peut-être sans le savoir parce que nous on n'avait pas l'expérience, mais quand tu vas avoir une banque d'affaires longtemps avant, c'était 2 ans avant parce qu'ils ont racheté, ils ont vendu le concurrent. T'anticipes un petit peu. Tu dis ok qu'est-ce qu'il faut pour vendre. C'est plutôt Franck mon associé qui est bon dans cette logique-là et qui a eu cette anticipation là. Qu'est-ce qu'il faut? On a demandé à la banque d'affaires, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'EBITDA. Il faut chercher de la renta, c'est ça qu'ils regardent. Il faut la croissance, il faut. Voilà, il faut toutes ces choses-là.
C'est pas qu'une question de verticales sur lesquelles tu es, des typologies de clients que tu peux apporter à un repreneur potentiel. Ça fait partie aussi du paquet cadeau.
Alors, c'est aussi des choses. Nous, dans nos métiers, c'était pas forcément ces choses-là qui étaient les plus importantes. C'est pas forcément la typologie de clients que tu avais. Il y a des choses qui nous disaient, par exemple, il faut pas qu'un client pèse trop sur ton CA. Ça, c'est des choses oui, assez logiques
de
à comprendre.
Ouais. Mais tu as des pourcentages, ça. Le degré de dépendance, on en parle souvent, c'est ouais, 20-30%.
20-30%, exactement. Il ne fallait pas que ça pèse trop. On n'avait pas de clients qui pesaient autant et on avait bien spité notre risque. Ils nous disaient aussi, ce qui est très important, c'est le récurrent. Ce que rachètent les potes.
Donc, le on parle de MRR, d'ailleurs.
Le revenu récurrent. C'est quelque chose qui rassure beaucoup un repreneur, parce que quand il rachète une boîte, il se dit ça fait 10 millions. Bon, bah, 10 millions de récurrent, c'est énorme. Ça fait 10 millions de résultats récurrents.
Là, tu as des proportions à donner par rapport récurrent versus. Versus somme forfaitaire.
Ouais.
Des proportions, moi j'en ai pas trop parce que nous on faisait que du récurrent chez Advisors. On avait 95% de récurrent. C'était un métier qui de base est récurrent. Quand tu gères un client, tu gères ses campagnes médias, tu le gères au quotidien, donc tu as des contrats mensuels, annuels.
Avec chez des Splash, engagements clients forts du coup ? Tu loquais les clients quand même ?
Alors nous on loquait pas les clients un an, deux ans. On avait quelques contrats, on les loquait sur la durée. Mais on loquait les clients.
Parce que vous étiez bon.
Peut-être aussi. Mais en fait, ils avaient 3 mois de préavis.
Okay.
Mais ils pouvaient sortir quand ils voulaient avec 3 mois de préavis. C'était une garantie quand même pour le racheteur. Et surtout, ce que un racheteur va regarder lorsqu'il rachète ta boîte, c'est aussi le nombre de clients qui re-signent. Forcément, le nombre de clients que tu perds chaque mois, ceux que tu gagnes, ceux qui restent
donc
longtemps
chez
toi. Donc
le churn, l'acquise.
Exactement. Exactement. Donc c'est des choses qu'on a appris, en fait, en parlant à la banque d'affaires, qui nous a beaucoup conseillé. Et c'est des choses qu'il faut conscientiser longtemps à l'avance.
Donc ça, c'est super, en fait. La banque d'affaires t'a aussi donné un petit peu le chemin.
Exactement. Et longtemps avant, en mode conseil.
Et alors, du coup, tu vas avoir plusieurs offres, finalement, sur la table, au moins deux.
Exact. On a eu un peu plus, je crois, 3 ou 4. Mais il n'y en a que 2 qui étaient vraiment plus solides, sérieuses, qui prêtaient notre attention. On a eu l'offre de Camplify et l'offre de iProspect, d'Ensu Agis.
Les deux, tu les connaissais déjà ? Est-ce que tu avais fait ce job sur le conseil de Pierre d'aller rencontrer
Non, je ne l'avais pas fait justement parce que Pierre, je l'ai rencontré que récemment.
Ah.
Donc c'est pour ça que je donne ce okay. conseil. À cette époque-là, j'ai réussi à vendre ma boîte, mais je n'avais pas toutes ces infos. Et vraiment, c'est quelque chose qui te. En tout cas, moi, qui m'a marqué. Et pour la prochaine, je sais que je travaillerai ça différemment. Et Pierre a eu des très bons conseils. Donc, mais en tout cas, non, à l'époque, je n'avais pas fait ce travail-là. Donc je connaissais Ensu Agis. Il avait pensé que c'était un gros player du marché, mais je ne connaissais pas Camplify. C'était un acteur du marketing qui voulait se digitaliser. Et donc, c'était pas du tout sur ces. Je ne connaissais pas.
2 offres sur la table, une à 12.
Exact.
Une à 20.
Même un peu plus de 20. C'était avec des multiples beaucoup plus élevés. Je crois que la deuxième, on pouvait monter jusqu'à 15 fois les bits en étant pas capé. Donc, on pouvait même monter plus haut. Mais en raisonnablement, on pensait.
Pas capé.
Pas capé au niveau de la valo globale. C'est-à-dire que plus on faisait de débit d'A, plus ils nous le valorisaient un multiple. Et on pouvait vendre 20, 30, 40, 50, il n'y a pas de limite, mais raisonnablement avec notre BP, on avait fait nos calculs avec Franck, on partait sur un truc logique à 20 millions si on restait 5 ans. Les seules différences entre les deux offres, c'est qu'on a une qui nous
c'est
engageait.
Le fait d'être loqué ou pas.
T'en as une qui te loquait 6 mois, Camplify. Donc on n'était pas engagé, au bout de 6 mois on pouvait partir si on voulait. Et une autre qui nous gardait 5 ans. Donc si j'étais resté, je serais encore là-bas.
Et la deuxième offre, du coup, il y avait donc un fixe avec un earn-out hyper fort, donc 5 ans j'imagine. Donc ça se décomposait comment
T'avais un fixe, je crois, de 6,5. Un truc comme ça, et qui était pas mal, mais qui était 2 fois moins cher que ce qu'on prenait quasiment tout de suite chez Camplify. Et t'avais un earn-out
potentiel,
de 14 millions
potentiel.
Virtuel, potentiel, mais qui était atteignable. Et on s'est dit quand même, c'est potentiel, c'est atteignable, on va le faire parce que les mecs étaient bienveillants, ils étaient sympas, ils étaient super cool, les mecs des prospect. Mais quand même, quand tu fais un deal comme ça, t'as toujours peur. T'as un gros qui te rachète, qui est énorme, il te propose l'earn-out, alors il va le faire, mais il peut se passer des choses où il
t'as 30%
il
de fixe et 70% de burn-out.
Voilà, il peut ne pas tenir le truc, il peut te mettre des bâtons dans les roues. Ils nous ont dit aussi qu'ils aimeraient bien qu'on gère tout le pôle SIA chez eux. C'était plus de 100 personnes, alors que nous, on était 20.
Ce qui peut te défocus aussi de l'objectif burn-out.
Exactement. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que tu te dis, bon, c'est une très belle offre. iProspect, c'est un très gros player. On peut aller très, très loin, mais quand même...
5 ans.
Et 5 ans, Franck m'a dit, mais Jérém, tu te rends pas compte. En 5 ans, on peut faire tellement de choses. On peut valoriser notre boîte tellement plus cher si on monte quelque chose d'autre. Et il a pas eu tort parce que tu vois, aujourd'hui, Splasher, on a fait ce deuxième deal et on est valorisé plus de 50 millions d'euros. Donc, il a eu raison quand même
de
nous rendre notre liberté un petit peu et de pousser le fait qu'il fallait être un peu libre quand on est entrepreneur. Alors, ça peut faire peur peut-être un racheteur de se dire bah je rachète une boîte et l'entrepreneur va pas rester ou veut pas rester. Mais nous, si tu veux, pour donner un exemple, sur Camplify, on était engagé 6 mois. Finalement, on est resté 2 ans et on a failli prendre les rênes de la boîte avec Cédric Rény qui voulait sortir et qui voulait nous mettre à la direction. On a négocié avec lui, donc on a failli rester. Donc au final, nous, ce qui nous intéressait, c'est le projet. Tu vois, c'était mais d'être libre, libre du choix.
Il y avait un premier sujet avec une garantie de cash tout de suite, et puis cette notion de liberté qui, voilà, est, effectivement, elle n'a pas de prix.
Alors, il y avait la notion de feeling aussi, tu en parlais tout à l'heure.
Exact.
C'est hyper important.
Exact, ouais, le feeling avec Cédric Rény, qui était un gars... Mais les deux étaient très cool. C'est-à-dire que les mecs des Prospects, c'était des gars géniaux aussi, qui avaient vendu leur boîte à les Prospects, qui avaient fait un super earn-out en plusieurs de dizaines de millions d'euros. Et en fait, on était un peu leur alter ego 10 ans après. Donc on se disait, on voyait en eux un peu nos potentiels,
frères,
tu vois,
ouais,
des grands frères. Donc on se disait, ils l'ont fait, on va le faire, ils vont nous aider et tout. Donc c'était très cool. Et Cédric Rény, qui est un mec extraordinaire, qui était très sympa, très humain, mais c'est une plus petite boîte. On se sentait plus à l'aise, plus à la maison, plus libre, en fait.
Avec un ADN peut-être plus commun.
Exactement. Et quand t'es entrepreneur, voilà, je pense que t'as besoin de cette liberté, t'as besoin de maîtriser ce que tu fais. Et quand tu rentres chez iProspect, 12 000 employés, ou quand tu rentres chez Camplify, tu vois, c'est dur à dire, 200 ou 300 employés, c'est 200, 300, je me rappelle plus du nombre exact, mais c'est moins gros, c'est plus familial, et t'as plus, en fait, c'est la liberté que tu viens chercher. Et nous, tu vois, la liberté veut pas dire je vais me barrer de la boîte une fois que j'ai vendu. Ça veut dire j'ai le choix. Et on a failli rester. On est resté quand même 2 ans. On avait que 6 mois d'engagement. Donc on a failli rester. On a failli pousser avec lui. On avait des parts du capital aussi de Camplify. On avait une partie en action du deal qui était faite en action.
Avec obligation de rachat si vous partez.
Non, pas forcément. Pas. On pouvait partir et les garder. On les a cédés il y a quelques temps. Mais du coup, c'est la liberté. C'est le vrai mot entre les deux deals où t'as un deal qui t'engageait vraiment parce que t'es pas libre quand tu dois aller chercher 70% de ton earn-out et te taper pour, alors que t'as un autre qui t'engage moins et t'as moins de pression. Voilà.
Ok.
Donc il y a ces deux offres sur la table. Donc a priori, même si on n'est jamais certain, vous dites là ça y est, on vend. T'as annoncé ça comment à ton entourage ?
Alors écoute, j'ai annoncé ça comment ? J'ai envoyé une photo sur le groupe WhatsApp de la famille. Et c'est un moment qui est quand même extraordinaire.
C'est quoi la photo, pardon ? Là, tu parles après la signature.
On fait la photo. Ouais. On fait la photo avec Cédric, le repreneur, et Franck. Et t'envoies ça à la famille en mode ça y est, j'ai vendu la boîte. Et en fait, mes parents étaient hyper fiers. Je vais te raconter une petite histoire qui est assez sympa. C'est que, alors c'est peut-être le cliché, tu sais, de l'entrepreneur. Mais quand moi j'étais jeune à l'école, j'étais assez nul. Je détestais l'école. J'aimais pas l'école et je me suis fait virer d'une école privée dans laquelle mes parents m'avaient mis. Et ma mère avait fait cette école. C'était une école un peu familiale, tu vois, qui avait 100% de réussite au bac. Et du coup, m'étais fait virer. Il fallait aller dans une nouvelle école. Et mon père, du coup, m'avait pris un prof de soutien en maths et en physique, mois de juin, juillet, en première. Donc j'avais pas pris de vacances. J'étais là à taffer de 20h à 8h du soir sans arrêt pour rattraper mes lacunes. Et un jour, je me rappelle...
20h à 8h du soir, c'est-à-dire que tu bossais pas.
Ah, c'est... j'étais à 24 et... Non, mais du coup, je vais te raconter la petite anecdote qui était intéressante, c'est que j'ai eu un déclic, en fait, et c'est ce jour-là où j'ai eu envie de bosser dans ma vie. J'ai eu un envie de bosser. C'est, je me rappelle de mon père qui prend à part le prof. Moi, j'écoute derrière la porte et il dit, est-ce que mon fils... Est-ce que mon fils est intelligent? Est-ce qu'il comprend? Tu vois?
Ah, ça fait
là,
mal.
T'entends, en fait, que ton père, il pense que t'es bête, en fait. Tu te dis, et en fait, ça fait mal. Mais du coup, moi, ça m'a réveillé un petit peu. Tu vois, tu te dis, ok, vas-y, j'ai la hargne.
C'est pas galvanisé pour la suite.
All I do is win, tu vois. Et maintenant, t'es dans cet état d'esprit. Et tu l'étais pas avant.
Et jusqu'au bout de la vie.
C'est ça, c'est un peu l'idée. J'espère. J'espère jusqu'au bout de la vie. J'espère que tu perdras pas la, je perdrai pas la flamme. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là où tu récupères une sorte d'énergie et en fait, ça m'a réveillé un petit peu. Et donc, mes parents, ils ont toujours eu avec moi. C'était pas le vilain petit canard, mais j'ai toujours été j'étais un très gentil garçon, très respectueux, très gentil. Mais j'ai jamais été bon à l'école, tu vois.
Et donc
j'ai
jamais toujours été bon. Cette peur, voilà, pour l'avenir études, de son gamin.
Voilà,
bien
ma
sûr.
Mère, mes parents sont médecins, donc ils disent. Moi, j'ai fait la fac, j'ai été à la Sorbonne. Ma mère, je me rappelle, m'a dit, Jérémy, fais tout ce que tu veux. Mais ne fais pas éco-gestion à Tolbiac. Parce que pour elle, c'était, tu sais, éco-gestion à Tolbiac. Dans sa génération, en fait, la génération de mes parents, éco-gestion à Tolbiac, c'était la génération. Et moi, j'ai fait éco-gestion à Tolbiac. Tu vois, j'ai fait éco-gestion à Tolbiac. C'est le seul truc qui m'a accepté après le bac. Je te jure, j'ai postulé en prépa HEC, j'ai pas été pris parce que je venais d'une école, tu vois.
Donc en fait. Mais tu parles de la photo de la fin, ils ont suivi quand même l'aventure, la croissance, le fait que la boîte allait super bien.
Ouais,
tu leur en parlais de ça?
Ouais,
ou...
mais ils réalisaient pas, tu réalises pas quand t'es père et que t'as vu ton fils qui galérait toute sa vie et au final,
t'es
qui a fait
sûr,
la fac et tout.
Dis, est-ce
qu'il gagne vraiment de l'argent?
Ouais,
son truc, il a l'air de
boîte,
marcher, mais c'est quoi ce truc? Tu sais pas, en fait. Et mes parents, ils imaginent pas, tu vois, ils sont médecins. Et quand tu vends, ils disent ah ok, pas mal, tu vois. Donc en fait t'es hyper fier, t'es hyper fier parce que tu leur as dit ok voilà, j'ai fait un truc et là ça se matérialise, enfin tu comprends, pendant des années j'ai fait ça et du coup c'est super, moi tu vois, c'est extraordinaire.
Je reviens sur le deal, même si c'est d'abord Franck qui a géré les négos dans le dur. Est-ce qu'il y a eu des débats sur certaines clauses? Notamment peut-être aussi sur le fait d'être loqué 6 mois. Tout est venu du repreneur et puis vous avez dit banco ou...
C'est venu du repreneur, il y a sûrement eu des négociations. Je ne peux pas te dire lesquelles. Je sais qu'il y en a toujours. Je sais qu'il y en a toujours. Je pense que Franck pourrait être un bon invité parce qu'il aura... peut-être plus d'anecdotes croustillantes sur les détails du deal. Moi, je t'ai dit, je suis plus la partie émotionnelle du truc.
Franck, on se le garde pour la LBO.
Ouais. C'est ça.
Et du coup, alors, on parle de vous deux. Il y a les équipes aussi. C'était important pour vous. Vous étiez loqué que 6 mois en termes d'accompagnement, des équipes, etc.
25 collabs à l'époque, je crois.
Ouais. Une vingtaine de collaborateurs. Alors, c'est hyper important pour les équipes et c'est un truc qui doit s'annoncer. Une personne
tu t'en rappelles de l'annonce aux équipes?
Ouais, je m'en rappelle et c'est un moment important parce qu'en fait, tu dois leur faire comprendre que c'est génial. Alors que pour eux, ça va pas changer leur vie.
Sachant que l'annonce est précession.
Exactement.
C'est la fameuse loi Hamon.
Exactement, ouais. Donc en fait, eux, si tu veux, ils vont pas. En fait, tu dois leur annoncer que tu fais un deal et leur faire dire voilà, c'est un truc génial qui va leur arriver.
Ah, potentiellement, c'est des opportunités.
Alors, c'est
aussi
des opportunités de développement dans le groupe, mais mine de rien, moi, ça change vraiment ma vie. Eux, pas spécialement. Et eux, c'est des changements qui peuvent être dangereux, tu vois. Ils sont dans une boîte un peu familiale, ils vont arriver dans un truc plus gros. Donc, ça peut faire peur. Donc, c'est un truc qui doit être annoncé. Donc, ça s'annonce, ça se travaille. Et si tu veux, lors de mon premier deal, on n'a pas forcément partagé le succès, tu vois, financièrement parlant avec nos équipes. On était plus jeunes, on n'a pas pensé, on n'était pas en mode, bah, on va partager des actions à des gars de notre équipe ou partager du cash, tu vois. Et maintenant, dans le deuxième deal, là, qu'on a fait, avec Splasher, bon, aujourd'hui, on a décidé, en fait, d'associer nos collaborateurs, de donner des actions gratuites à nos collaborateurs.
C'est quoi, en BSPCE ou des choses comme ça ou...
Des actions gratuites. Alors, je connais, il y a eu des BSPCE qui ont été faites lors de la création de Splasher. On a donné quelques BSPCE aux premiers arrivants, à certains arrivants qui étaient avec nous en business pour partager vraiment le succès. Et on l'a fait dès le début, ce qu'on n'a pas fait sur Advisors. Et également, là, avec le deal, on a délivré des actions gratuites. Je sais pas quelle forme ça prend, mais je crois pas que ce soit des BSPCE, c'est des actions gratuites délivrées à tous les collaborateurs en CDI pour associer aussi à la réussite nos collaborateurs, parce qu'en fait tu te rends compte une fois que, alors la première tu es un peu entrepreneur fougueux et tu te dis j'ai réussi, mais au final la seconde tu te dis mais c'est pas toi, c'est toute une équipe. Et tu te tapes avec eux.
On n'avait pas répété.
Tu vois, c'est ça. Et vraiment, et tu le réalises et tu te dis, voilà, tu t'en rends encore plus compte sur la seconde. Et donc, du coup, on veut associer nos équipes au business et elles sont maintenant associées avec nous.
Une autre anecdote sur cet avant, parce qu'on va évidemment faire un saut pour parler des 6 mois finalement transformés en 2 ans après la signature. Sur toute la partie avant, est-ce que tu as quelque chose qui te revient?
Sur avant la signature,
ouais.
Un truc qui me revient mais qui n'a rien à voir avec la signature.
Le deal, on est quand même dans le cash out. Hein.
Si, sur le deal et en même temps, je me rappelle d'un client, je vais te raconter, mais c'est un client, ça s'est très mal passé. C'était notre plus gros client, Yaka Roulé. Et c'est un site auto. Et en fait, c'était notre plus gros client de l'époque. Et quand tu fais un deal, si tu perds un gros client, c'est chiant avant le deal. Et je me rappelle, ça nous rapportait 5000 balles par mois. Donc, c'était pas le plus gros contrat de l'année, mais à l'époque, c'était énorme pour nous. C'était un truc monstrueux, tu vois. Et c'était un des beaux contrats qu'on avait. Et du coup...
Là, je fais le calcul, c'est-à-dire que vous aviez énormément de clients.
On avait beaucoup de clients, ouais. On avait beaucoup de clients. Et en fait, quand tu perds un client, tu te dis, putain, c'est chaud, je vais devoir rattraper ce business. Et ça s'était mal passé. Et en fait... Franck et moi, on a tellement eu peur en fait de que ça pénalise notre croissance que les 2 semaines qui ont suivi, on s'est mis au commercial. Même moi, j'ai commencé enfin, alors que c'était pas mon job. J'étais sur LinkedIn, j'ai commencé à démarcher, etc. Et on a signé pour 12 000 euros de signature récurrente. C'est notre plus gros mois à l'époque avant le deal. Donc en fait, si tu veux, c'était une pression quand même, mine de rien, quand tu fais un deal. Je me rappelle de ce client-là qu'on perd et du coup. Tu veux pas que ça s'arrête, tu te remobilises et tu dis faut pas que je lâche, c'est pas le moment.
Donc ça se signe, vous prenez l'offre de Quamplify et on va parler de ces jours d'après. Et pour ça, tu as choisi.
Très TikTok, hein.
Très TikTok.
Moi, ça me rappelle le mariage de Don Corleone.
C'est ça, un peu.
Pourquoi ?
Parce que quand tu rentres dans un dans une grosse boîte comme ça, chez la Luna, c'est un peu... tu sais, je sais pas si tu connais le signe sur TikTok, attends deux secondes, doucement, tu vois, l'italienne, c'est prends ton temps. Alors que quand t'es entrepreneur, tu fais tout vite, tu bouges vite, quand t'as une petite boîte, quand t'as une start-up, t'es dans la pression. Et quand tu quand tu vas dans un gros groupe, on te dit plutôt calme-toi, ça va, doucement. C'est plus dans une musique de grand groupe. Les deals ils se font en plus longtemps. La structuration c'est plus long. Donc en fait, c'est pas qu'on te coupe les ailes, mais on te dit voilà, doucement. Doucement, c'est pas le même modèle. Et moi, c'est vrai que quand je suis arrivé dans Camplify, j'ai tout de suite voulu tout révolutionner. Je voyais une super boîte avec des gros clients, ils avaient des gros clients, sur un métier qui était complètement différent d'une autre et pas du tout synergique. Et moi, je m'engouffrais dans le moindre recoin pour essayer de trouver la synergie. Parce que Cédric Régnier était convaincu qu'il fallait en faire. Moi, j'étais convaincu que ça pouvait le faire aussi. Et par contre, le plus clairvoyant, ça a été Franck, il me disait, mais tu perds ton temps. Il me dit, tu perds ton temps, ça, on fera jamais de business avec eux, ça peut pas se faire, on n'a pas de synergie, c'est très très dur, tu vas galérer. Et j'ai réussi à signer des clients, mais j'ai galéré, c'était très dur, j'ai été dans toute la France, je me rappelle à Bordeaux, à Montpellier, j'ai fait des rendez-vous, j'ai perdu mon temps, de l'énergie sur mon business qui lui était rentable, pour chercher du business et des synergies, où j'ai galéré. Et donc Franck avait raison sur ce coup-là. Et au final, quand tu rentres dans une boîte, alors le racheteur, il le faisait peut-être pas, il le faisait pas pour développer des synergies, il le faisait pour se digitaliser parce que lui, il y avait peu de métiers où il était très digital, donc il voulait avoir. On était une de ses premières boîtes full digital.
Vous avez pas été la première.
Non, il y en a une autre avant qui s'appelait Advertise.me, mais qui était dans le sud, donc on avait du mal aussi à développer des synergies. Mmh. C'était à Cannes, qui est une belle boîte d'emailing.
Et il y en a eu après.
Il y en a eu plein d'autres après qui étaient du coup très synergiques avec Advisors. Et notamment une boîte de SEO, ouais, il a racheté d'autres boîtes. Mais c'est vrai que en fait, je sais plus ce que je voulais dire, mais
bah, ça tombe bien.
Non, mais je voulais savoir si les rôles étaient bien déterminés, bien précis, ou si c'était un peu vague. Est-ce que on parle de l'accompagnement là, est-ce que c'était précis pour vous, ce que vous deviez faire, pas faire, etc.
On devait développer notre boîte, développer notre EBITDA, tenir notre chiffre, notre bilan. Voilà, tout simplement. Donc, il fallait le faire. C'était l'objectif premier, puisqu'en fait, comme je t'ai dit, le repreneur a pas racheté Advisors pour les synergies, mais plutôt pour de la renta, construire cette renta, développer son groupe et après pouvoir utiliser le levier bancaire pour
racheter. Mais avec un circuit de décision qui est différent, il y a plein de trucs différents que la veille, en fait. Donc,
Bien sûr. T'as de nouveaux collaborateurs, des nouveaux bureaux. Nous, c'est un petit bureau, tu te retrouves avec 300 personnes, des moments de décision plus importants, du légal un peu chiant, alors que nous, on était plutôt léger. Tu vois, plein de mécanismes qui, au final, structurent une boîte, mais qui toi, en tant qu'entrepreneur, peuvent te restreindre un petit peu.
Du coup, alors l'intégration s'est super bien passée. Sinon, vous ne seriez pas resté 2 ans au lieu des 6 mois où vous étiez loqué. Vous avez vu, pendant ces 2 ans, un certain nombre de boîtes aussi rejoindre le groupe. Côté repreneur, du coup, si tu te mets à sa place, comment on fait une bonne intégration? Comment on conçoit les synergies? Parce qu'on n'a pas qu'un exemple à ce micro où finalement, c'est complexe quand même.
Bah écoute, nous, des intégrations, on n'a pas eu l'occasion d'en faire étant donné que on a aidé Cédric à racheter des boîtes. C'est-à-dire qu'on l'a aidé, on a identifié des cibles et il a racheté des boîtes, mais on venait de partir. Donc quand ça s'est matérialisé, okay, on est parti. Donc on n'a pas vécu les intégrations, mais c'est nous qui avons initié les deals, les négociations, les discussions. Et on se plaçait en tant qu'entrepreneur avec la force de frappe du groupe en se disant, OK, on va racheter, on l'a aidé à faire ça. Et il a signé des boîtes derrière, notamment une boîte qui s'appelle Camden, qu'on a aidé à racheter, qui maintenant fait partie du groupe, qui s'appelle Camplify Social et qui fait du contenu vidéo, donc qui est concurrent de Splasher.
Mais pourquoi...
C'est sympa de ta part de...
Mais ouais, ouais, vas-y, pardon.
Pourquoi votre intégration s'est bien passée?
Écoute, elle s'est bien passée parce qu'on est des mecs cool, déjà.
Ouais, c'est premier point.
Voilà. Ok. On est des mecs cool. Alors je refais la blague. Parce qu'on est des mecs cool.
Attends, c'est moi qui.
Parce qu'on est des mecs cool. Voilà. Je préfère quand il y a le bruitage. Hein.
Le succès.
Et là j'ai pris mon temps.
D'accord.
C'est encore la musique d'avant.
Non, mais parce que au final, je vais te dire, c'est con, hein, mais lui était sympa et on était sympa aussi. Ça s'est bien passé. On s'est très bien entendu tout de suite.
Le feed du départ a continué.
Le feeling est bien passé. Et en fait, quand t'as un bon feeling avec le mec qui te rachète et quand t'as pas une usine à gaz avec 10 000 personnes, 10 000 employés, tu peux parler à ton boss, au patron de la boîte, et t'es dans le cadre de la décision et on décide ensemble. Ça se fait en bonne intelligence, c'est super. Donc ça s'est bien passé parce que lui était sympa, on était sympa, on était une petite boîte, c'est une petite structure quand même, 300 personnes, c'est petit.
Il y a une fluidité de com entre les ex-fondateurs. Voilà,
ça se passe bien, c'est cool. Lui, il venait du sud, il habitait à Aix, on faisait les comités de direction dans le sud, à Cannes, à Nice. C'était une ambiance cool, une ambiance détente. Donc t'avais ce côté familial quand même, qui était bien. On s'est pas fait racheter par un banquier, par un mec, tu vois, avide d'argent du business. C'était un mec qui place avant tout l'humain. Et on s'est très très bien entendu avec ce mec-là. Et on s'entend d'ailleurs toujours bien, je le vois pour déjeuner dans pas longtemps. Et donc ça s'est bien passé. Mais du coup, peut-être pour parler d'intégration, nous chez Splasher, on a intégré une boîte qui s'appelle Sparkle. En fait, on a pour la première fois, on a pas racheté une boîte, mais ils venaient de se lancer, donc on les a intégrés direct au capital de Splasher. C'est une boîte qui s'appelle Sparkle, qui est spécialisée dans la création de contenu sur TikTok. Et ça s'est également très bien passé. Mais pourquoi ? Parce que je pense que c'est les mêmes conditions qu'on a reproduit lors de nos premières boîtes, c'est qu'en fait, c'est des gens sympas, bienveillants. Et on sait, en fait, je pense que ça fait tout quand tu t'entends bien avec les personnes avec lesquelles tu t'associes. T'as un bon feeling, ça se passe bien.
T'as envie d'avancer ensemble.
Voilà, t'avances bien et ça se passe bien. Et au final, Sparkle, aujourd'hui, ça fait... ça s'est créé quasiment un an et demi après Splasher, mais ça fait quasiment autant de chiffres que Splasher. C'est une vraie success story. Ils sont un des leaders sur TikTok. On accompagne des clients comme WeSNCF, comme Burger King, comme LinkedIn, Planet Sushi, des gros acteurs. Et ils ont une vraie légitimité sur le marché sur TikTok. On est Creative Partner TikTok. On est une des seules agences dans le monde à faire partie d'un programme qui s'appelle TTCX. On n'est que deux agences françaises dans le monde. Je crois qu'on est six dans le monde. C'est un programme où en fait TikTok nous envoie des clients et paye pour les clients. On a même TikTok en client. On a fait des vidéos pour TikTok, donc c'est quand même lourd.
Ça, c'est propre.
Et on va vous expliquer comment ça marche chez vous.
c'est ça. Tu vois, donc quand même, on est hyper légitime et donc c'est une intégration réussie.
T'avais choisi Chela Luna de Luis Prima sur Prends le temps. Je pense que ça fera une bonne transition avec la question d'Elena Haddad, banquière privée chez notre partenaire Neufis OBC. Bonjour Elena.
Bonjour. Jérémy, moi, ma question, je te suivais sur LinkedIn et je voyais que tu disais que tu prenais très peu de vacances et que même quand tu partais en vacances, tu travaillais toujours puisque tu es passionné et que tu as du mal à te détacher. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te détendre ?
Écoute, c'est une très bonne question, mais je vais passer pour un fou. Il y a des gens, si tu veux, quand j'ai fait ce post sur LinkedIn, je me rappelle très bien, ils sont moqués un peu de moi. Il y a eu pas mal de moqueries sur Facebook et LinkedIn, mais en fait, moi, travailler, ça me détend. Et tu vois, c'est-à-dire, ça me détend parce qu'en fait, je fais ce que j'aime. Je fais ce qui me passionne. Donc, je peux pas m'embêter parce qu'en fait, moi, au quotidien, je m'amuse. Et je vais donner un exemple tout con. Mais dernièrement, chez Splasher, on a monté une entité qui s'appelle Blocks, qui est une entité spécialisée sur la blockchain et les crypto-monnaies, sur le conseil blockchain crypto. Parce que c'est un truc qui me passionne. Tu vois, c'est la blockchain et les cryptos.
On en parlera tout à l'heure.
Exactement. C'est un sujet qui me passionne. Et donc, j'ai réussi à l'intégrer dans mon travail parce que dans ce que je fais au quotidien, dans mon boulot, j'intègre toujours mes passions et donc forcément ça me détend. Travailler, ça me détend. Et quand je suis en vacances, alors ça va être chelou, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire que je vais pas dire que je m'embête, mais bon, il me manque un truc, tu vois, j'ai besoin ça fait 10 ans que j'ai jamais pris une journée de vacances. La seule journée de vacances que je prends, alors si j'en prends, je suis un menteur, j'en prends quelques-unes, mais je suis juif et je fais Shabbat le vendredi soir, jusque samedi soir, je ne touche pas mon téléphone, et donc c'est une coupure. Donc ça me permet aussi de me régénérer, d'avoir ce moment de détente dans la semaine, j'en ai une fois par semaine, mais hormis ça, tout le reste de mon temps, j'ai jamais eu de vraies vacances, j'ai toujours travaillé, que ce soit le samedi soir, je récupérais mes mails, le dimanche, voilà. Et donc, mais parce que c'est pour moi un moment de détente, c'est ce qui me détend au quotidien. Voilà.
Merci.
Merci à toi.
Juste un dernier mot sur toute cette période après la revente d'Advisors. Vous êtes chez, même moi, j'arrive plus, Quamplify. Le moment où voilà les 2 ans s'achèvent, c'est une question que Renaud aime bien poser, mais j'aime bien lui voler aussi. Quand tu pars pour la dernière fois, tu fermes la porte derrière toi et il y a quoi dans la tête?
Quand tu quittes Advisors, ouais. Tu pleures. Ah, j'ai pleuré, moi.
La porte, il y a eu un pot de départ, il y a eu un cérémonial.
Il y a eu un pot de départ, tu te fais applaudir par toutes tes équipes qui sont tes frères, t'as grandi avec eux, tu vois, et tu pleures parce que c'est un moment hyper émouvant, tu vois, t'es pas bien. En fait, tu quittes ton bébé, en fait, c'est même pas ton bébé, c'est tu quittes des gars que t'aimes. Des gens avec qui t'as construit, qui ont grandi avec toi, parce que nous, c'est vrai qu'en Montagne d'Azur, sont recrutés des stagiaires qui sont devenus des CDI, qui ont grandi avec nous, donc tu quittes tes copains, et donc c'est dur, et tu vas lancer un nouveau business, et c'est une chose difficile, donc forcément, voilà, c'est tu pleures tout simplement, et tu te dis, et en fait, tu repars tout de suite au charbon, parce que nous, derrière, en fait, on n'a pas eu de temps de pause. Tu sais, il y a des entrepreneurs qui prennent, comme tu me l'expliquais, un an de vacances.
Ta femme est ravie d'ailleurs, que tu n'aies pas pris de
pause. Ma femme m'a dit, moi j'avais promis à ma femme, t'inquiète chérie, on va partir, on fait 3 à 6 mois de pause, on va se la kiffer. En plus, j'ai pris un peu d'argent et tout, on va kiffer et tout. Rien. Rien, bon, on est parti en vacances ensuite, je vous rassure. Mais en fait, c'est vrai que on n'a pas pris de pause. Donc, on a tout de suite enchaîné avec le business et on a monté Splasher.
Tu savais déjà, parce que le pas prendre de pause, c'est je quitte Advisors. Le lendemain, je me pose avec Franck.
Non, le lendemain, où est-ce qu'on va? Bureau.
Vous saviez?
Le lendemain, je suis dans mon bureau, je travaille.
Donc, vous saviez exactement où vous alliez.
Je savais parce que Splasher, ça a commencé chez Advisors, en fait. Pour t'expliquer, moi, je me rendais compte que la vidéo explosait. Mais que mes clients de l'époque n'avaient pas de contenu optimisé pour leur campagne digitale et médias. Et il n'y avait pas TikTok encore à l'époque, c'était tout récent. Et du coup, en fait, j'ai un client qui s'appelle Hugues Avenue, je lui dis, écoute, toi, pour cartonner, il te faut des vidéos, c'est obligé. Viens, on te fait des vidéos, mais tu payes trop cher tes vidéos. Il est payé 20 000 la vidéo. Je dis, moi, je te sors une vidéo à 1 000 balles. Une créa active.
Et on va les multiplier. On va faire de la B-testing sur les
15,
vidéos.
Je te vends 15 000 euros. 15 créas vidéo tournées avec des acteurs livrés dans toutes les tailles. Il me dit, putain, on me vend 15 000 la vidéo. Vas-y, ok, banco. Je vais voir un réal, Michael, donc mon associé.
Qui est devenu associé maintenant.
Et je lui dis, j'ai 500 euros de budget pour faire une créa vidéo. Est-ce que t'es chaud? Il faut tout dedans, les comédiens, le tournage. Il me dit, allez, banco, c'est bon. Et on tourne des vidéos. C'est l'histoire, le début de Splasher. Et on tourne, on gagne 7500 balles. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est que le client... il explose son chiffre à tel point que, en fait, son coût par acquisition, il est resté stable et il fait 5 à 6 fois plus de volume. Il arrive à aller chercher beaucoup plus de business alors qu'il était capé, il n'arrivait plus à développer. Il explose son business en acquisition. Ça cartonne pendant 3 mois jusqu'à qu'on ait plus de vidéos. Et quand on n'a plus de vidéos, ça tombe. Évidemment. Ça tombe doucement, doucement. Et du coup, on fait un business case. On est invité chez Facebook qui nous disent, vous avez scalé la vidéo et tout. Il y a très peu d'acteurs, il y a 4 ans, qui faisaient ça. Ça nous intéresse, on a fait une table ronde avec Facebook, il y avait 200 personnes, on était invités et tout, chez Google aussi, pour parler de ça.
Là, c'était du coup déjà vos réseaux.
C'était Advisors.
Grâce à, voilà.
Non, on était chez Advisors encore. Okay. Et du coup, mais on n'avait pas créé une offre, c'était juste, on avait répondu à un besoin d'un client. Et finalement, c'est devenu une boîte. C'est-à-dire qu'on a annoncé le départ, on a dit, bon, on part et on va monter ça, mais on va le faire nous. Et finalement, on a monté une offre. C'était pas resté, on a monté une offre dédiée et on a créé Splasher donc sur ce modèle-là, sur ce succès.
Alors, la vie d'après, la vie de Splasher, mais pas que, tu as choisi.
Pour ma petite nièce. Hein,
ouais, on voit que t'es papa, tonton.
Spécial dédicace.
C'est pour ça. Dédicace à Chirelle, ma petite nièce que j'aime. Voilà. Qui la chante super bien. Je la connais pas. Hein.
Ah, je te regardais, j'y croyais.
Tes garçons, ils la chantent pas du coup?
Non.
Bon. Bientôt.
Je pense que t'as le refrain.
Ouais, libéré, délivré. Pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Ça va bientôt arriver.
T'es prêt?
On attend.
Renaud?
Je l'écoute tous les soirs avec mon fils. Pas.
Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiment. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré.
Et donc, alors c'est un petit... Ah, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes.
Plaisir coupable.
Mais cette musique, bon, c'était un petit clin d'œil à ma petite nièce, mais non, c'est de dire que ça y est, on repart libre, complètement libre. T'as moins d'engagement. Alors, libre, ça veut pas dire je suis en vacances, c'est-à-dire je remonte un nouveau business, mais c'est mon bébé, je repars, je redémarre et Ça y est.
Alors, tout à l'heure, tu as dit, dans cette nouvelle aventure, dès le départ, on embarque tous nos collaborateurs, on leur donne des actions gratuites. Qu'est-ce que tu as fait d'autre de nouveau, de différent, parce que tu as appris plein de choses dans ta première aventure?
Alors, on a fait très peu de choses différentes et justement, c'est ça qui nous a aidés. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris, je pense, la grosse tête en te disant, tu vends ta boîte, tout de suite, je vais embaucher 10 personnes, je vais prendre des bureaux de ouf. Non, on a pris un coworking. Mais quand je te dis qu'il faisait 6 mètres carrés le bureau, on était 3 dedans, plus un stagiaire. On n'a pas embauché de CDI. On a commencé nous-mêmes à faire, par exemple, les vidéos. Les premières vidéos des clients stagiaires, c'est moi qui les écrivais. Alors que je ne suis pas scénariste, tu vois. Je suis pas... Avec Michael qui me relisait, qui avait une petite expérience. On a recruté un stagiaire qui était monteur, qui faisait un peu de motion, qui faisait toute la post-prod. Mais il avait 18 piges. Il était en première année d'école. C'était juste un crack. On n'a pas tout de suite commencé gros. C'est-à-dire qu'on a gardé les mêmes logiques advisors. On a mis nous-mêmes les mains dans le cambouis. On est reparti au charbon. Et ça, je peux te dire que c'était très dur. Et je sais pas si ma prochaine boîte, j'aurai la force de le faire. Je pense que là, je prends la grosse tête, j'embauche des mecs.
Parce que tu crois qu'il y a quoi, une forme d'embourgeoisement
Pas d'embourgeoisement, mais forcément, t'es un petit peu plus cool, plus à l'aise. C'est-à-dire que tu te dis bon.
Bah, déjà, t'es pas obligé de te verser un salaire rapidement.
Exactement.
T'as un peu de sous pour manger.
On s'est pas versé de salaire, ouais.
T'as moins l'agnac ou des choses comme ça?
Pas que t'as moins l'agnac, mais c'est très dur de monter une boîte de zéro. On se rend pas compte, mais c'est très, 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 très dur de démarrer de zéro, de faire un portefeuille client, même si on avait des contacts du réseau, de pitcher une nouvelle boîte, d'apprendre à pitcher une nouvelle boîte, d'avoir des problèmes, parce que avoir un problème sur Advisors, je sais le gérer. Quand il y a un problème sur Advisors, pas de souci.
C'est moi, un transfert de mail souvent.
Ouais, je mets les mains dans le cambouis, je vais faire les campagnes, je sais gérer des campagnes médias, c'était mon métier de base. Bon, il y a un salarié qui est malade, qui est pas là, je prends en main et tout. Si Michael, il est malade, il a la gastro ou il a le Covid, qui va tourner? Qui va gérer? Est-ce que je vais prendre la caméra? Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Est-ce que s'il y a une comédienne qui plante, comment ça se gère, etc. Donc, en fait, il y a des nouveaux stress et des trucs auxquels tu peux pas répondre. Et donc, sur un nouveau métier, et si tu veux...
Faut prendre le temps de pouvoir réapprendre.
Donc, tu peux te dire, soit je recrute des personnes et on est 10 dès le départ et tu pars perdant, mais du coup, ta mentalité dès le départ, elle est pas la même. Alors que là, on a voulu recréer une boîte avec la même niaque. Et quand t'es dans cette niaque-là, je trouve que ce qui est intéressant... Et ce qui est cool, c'est que en fait, t'es tout de suite dans une ambiance dure. Donc les équipes, elles se mettent dans cette ambiance où on a peu de moyens, on fait par nous-mêmes, on apprend, c'est dur, tu vois. C'est DJ Khaled. Donc comme c'est dur, tu te tapes, tu vois. Et c'est.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de frustration où économiquement tu peux recruter en plus des seniors, etc., qui répondent à ces.
C'est sûr à 100%. Alors moi, je suis plus frustré que Franck. Franck me dit non. Franck, il a raison. Il me dit Jérém, il faut que ce soit dur. Il faut qu'on apprenne nous. C'est normal que ce soit dur.
Et puis il faut éprouver le modèle.
Il faut apprendre le modèle, l'éprouver, comprendre.
T'as un premier succès là quand vous êtes encore chez Advisors avec Gavenu. Faut voir que ça peut se multiplier, se démultiplier sur.
Je suis d'accord, mais t'as des entrepreneurs qui arrivent à faire quelque chose que je ne sais pas faire. Par exemple, Loïc Soudebran, le mec de
Soubéran
de Swile, pardon.
Ouais.
Il a remonté. Il avait une très grosse boîte, il était associé.
Je vais la retrouver.
Qui a été racheté par Altice.
Tout à fait.
Qui est de la programmatique vidéo.
Tids.
Ouais. Et ce mec-là, il a remonté Swile. Très vite, il a embauché des centaines de personnes. Donc du coup, il est allé dans une logique où du coup, je veux aller très vite, licorne, et je vais dépenser d'argent, je vais perdre beaucoup de cash, ce que je ne sais pas faire. Parce que moi, j'ai appris, pour vendre ta boîte, il faut faire de l'EBITDA. Donc, si tu veux faire les bidas, faut se taper. C'est du travail. C'est du service. On est dans un métier de service. On n'est pas dans des métiers scalables. C'est dur. Donc, tout de suite, il faut que j'apprenne à faire pour pouvoir embaucher quelqu'un et lui dire, regarde, moi, j'ai fait. Donc, la charge de travail que tu peux assumer, c'est tant.
Et en plus, que tu vas faire mieux. Plus. Voilà.
Ouais, je sais que tu peux pas assumer plus que ça, etc. Donc, il faut comprendre le modèle.
Parce que t'as le bon management avec les bons collaborateurs qui arrivent, etc.
Exactement. Et je pense que, alors moi, je sais pas faire. Lui, il a fait, il a réussi. Et il a, je pense, un bon management parce qu'il a développé une boîte, ça cartonne. Les mecs ont l'air d'être contents d'être là-bas. Mais je sais pas faire. Donc, j'ai fait. Et donc, du coup, comme tu posais la question au début, est-ce que t'as fait quelque chose de différent? J'ai essayé de faire la même chose. J'ai essayé de tout faire pareil. Au contraire, j'ai essayé de rien changer. Je me dis, putain, le premier, ça a été un succès. Faut que je fasse la même. Faut pas que je change un iota du truc.
Donc, en termes de culture d'entreprise, quoi.
Culture d'entreprise, même des bureaux. Alors, on n'est pas allé à Pantin, on est allé plutôt dans le 16e, on a changé un petit peu, mais c'était le même prix, hein. On a pris un coworking parce que aussi, ce qui est important, c'est que quand tu montes une boîte, c'est très important tes bureaux. C'est très chiant quand t'es entrepreneur de gérer des bureaux, un local, la wifi, on se rend pas compte les problèmes, le truc, les machins. Le cowork, c'est tellement, ça change tellement la vie. Et donc, du coup, quand tu démarres, là, c'est un peu plus dur, on n'est plus en coworking, mais quand tu démarres, ça t'aide, ça t'enlève des problèmes. Tu oublies ces problèmes-là, et donc le cowork, c'est une bonne solution. Donc c'est ce qu'on, on va dire la seule chose qu'on a pu changer.
T'as pas fait de folie, je crois.
J'ai acheté une Ferrari, un yacht. Non, c'est pas vrai.
Je sais que c'est pas vrai.
Non, je roule en smart. J'aime pas trop les voitures. Mon père est passionné de voitures, mais moi, pas du tout.
Et bon, ta résidence principale. Par contre, ouais. Je crois, en fait, je sais, beaucoup de Bitcoin, mais pas que. T'es un fanat de crypto-monnaie. D'ailleurs, t'es un influenceur sur TikTok et t'habites pas à Dubaï, ce qui est assez, ce qui est assez rare pour être souligné.
Ton pseudo TikTok pour les auditeurs.
Assez facile, Jérémy Ben d'ailleurs.
Comment t'as trouvé ce nom?
Écoute, j'ai beaucoup galéré. Mais j'ai choisi celui-ci.
Et donc là-dessus, pendant un très long moment, t'as donné beaucoup de conseils sur l'achat, la gestion de ces cryptos.
Yes, bah en fait moi si tu veux très simplement quand j'ai vendu Advisors, enfin déjà avant, hein, pendant Advisors, je me suis passionné pour les cryptos quasiment un an et demi avant la vente, vers 2017, un an avant la vente 2017, j'ai commencé à investir le Bitcoin, je crois que c'était à $200.
Et c'est combien maintenant?
Plus de, je regarde pas le cours parce que en fait, pour moi, le Bitcoin, c'est un moyen de me sécuriser face aux banques. Donc je m'en fous du cours. Alors moi, j'ai des Bitcoins, j'en aurai toujours parce que si un jour il y a un problème et qu'il se passe en Russie ou un truc comme ça ou en Ukraine, etc., c'est une sécurité pour moi. Moi, je le prends vraiment comme une sécurité. Donc le cours du Bitcoin, j'en ai rien à faire que le Ether il passe à 10 000, 4 000, etc. Déjà, je suis convaincu que ça vaudra beaucoup plus cher dans quelques années.
À l'époque, enfin moi, j'étais connu une époque où quand même tous les jours, t'allais regarder ton portefeuille.
Ah ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis dans une logique différente. Ouais. J'ai beaucoup de crypto, mais je les garde et j'investis très régulièrement. Et quand je peux réinvestir, quand il y a un dip, quand le cours il tombe, j'en rachète parce que je pars du principe que, et là, j'ai fait un cash out avec Franck, on est en train de placer une grosse somme encore. Parce que nous.
Depuis la holding,
ouais.
Et si t'as un conseil à donner aux auditeurs sur 1000 euros à placer en crypto, tu dirais quoi?
Alors 1000 euros à placer en crypto, en fait je dis 1000 euros pour moi, c'est pas 1000 euros, c'est quel est le il faut que tu investisses une part de ton capital. Si t'as 1 million d'euros, bah tu mets 1000 euros, c'est trop peu parce que ça split pas ton risque. Et quand t'as 1000 euros, ça peut être très peu ou ça peut être beaucoup, ça dépend de l'auditeur qu'on a en face.
Disons 10 000 alors.
Non mais disons combien de pourcents.
Non mais même
oui, c'est plutôt ou en proportion.
Pour moi, ce que je veux dire, c'est que le montant, il est pas forcément important. C'est plutôt le pourcentage. Mais je mettrais plutôt et c'est ce qu'on va faire là avec Franck, c'est plutôt 50% en Bitcoin, 50% en Ethereum.
On prend le capital global que tu as. Tu mets pas 50 et 50 tout en
crypto. Non, sur ce que tu
crypto.
Décides de placer en crypto.
Okay. Non,
du coup, quelle est la part de...
La part, je pense qu'aujourd'hui, moi à l'époque, je disais aux gens, mettez 5% de votre capital en crypto. Aujourd'hui, je dis, mettez 15%.
On dit, il faut mettre ce que tu es prêt à perdre. Tu es d'accord avec...
Non, parce qu'en fait, pour moi, les cryptos, c'est un moyen de te sécuriser face à la monnaie. Et il y a des gros problèmes de monnaie où on imprime du cash. Je te donne un exemple tout con, moi, qui m'a marqué. Et je prends pas du tout position dans la guerre face à l'Ukraine, Ukraine-Russie. Je suis pas du tout un politicien. Mais moi, il y a un truc qui m'a choqué, qui me choque aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Peut-être je prends un pari en le disant. Mais tu vois, il y a des Russes qui vivent hors de Russie. Et on bloque leurs avoirs. On bloque leurs avoirs. C'est-à-dire qu'à la banque, ils peuvent plus sortir d'argent. Parce qu'ils sont proches peut-être de Poutine ou pas, mais en tout cas on décide parce qu'on estime
que ça va avoir une influence
et donc on bloque leurs avoirs. Moi je trouve ça hyper autoritaire et hyper dur de plus avoir le contrôle sur ton argent. À Roman Abramovich, qui est un entrepreneur, pendant des années il avait Chelsea, on l'a jamais fait chier. Si on voulait le faire chier, si on a dit bon c'est un mec, peu importe, moi je le défends pas, mais si tu veux on bloque son argent, on l'oblige à vendre ses activités. Donc aujourd'hui Ça te prémunit face à quelqu'un qui pourrait te bloquer ton argent. Ça te prémunit aussi face à une crise de l'argent, parce que demain, pour rappeler aux auditeurs, s'il y a une crise en banque, et il y en a déjà eu en 2008, il y a une banque qui a fait faillite, une banque
les mêmes brothers.
Bon, bah, t'es assuré jusqu'à 100 000 euros. Moi, si j'ai vendu ma boîte 10 millions, il me reste 100 000 euros sur mon compte en banque. Bon, les autres sont utilisés par l'État pour.
Et en plus, tu parlais beaucoup de liberté. Donc, c'est une forme pour toi de liberté, cette gestion décentralisée.
Exactement. Et moi je pense qu'il faut aujourd'hui investir plus de 15 à 20% de son capital en crypto, mais sans regarder le cours. Te dire, c'est une façon de me prévenir face à lui. Et je parle crypto.
Et sur une proportion 50-50 Bitcoin, Ethereum, sans aller sur des monnaies exotiques. Ou...
Si, alors moi, si je suis alors si t'es passionné et que tu regardes le marché, moi, j'investis pas que sur du Bitcoin et sur de l'Ether, mais si tu connais pas. Bitcoin, Ethereum. Ne commence pas à te prendre pour un trader. Bitcoin, Ether, c'est ce qui te sécurise. Bitcoin, parce qu'en fait, c'est la seule crypto-monnaie où en fait, il y a plus le, tu n'as pas le, le fondateur de Bitcoin, on le connaît pas, et c'est une monnaie que tu peux pas arrêter. Tu peux pas demain aller voir Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin, tu sais pas qui c'est. La blockchain elle tourne toute seule. Donc c'est géré par des particuliers, c'est une monnaie décentralisée. Donc ça tourne tout seul et ça ne s'arrêtera jamais. Donc le Bitcoin, si voilà, ça existera toujours, et si un jour le marché si un jour les autorités financières décident d'interdire les cryptos, ils ne pourront jamais bloquer Bitcoin. Bitcoin existera toujours. Donc en fait,
oui, mais tu pourras peut-être plus rien acheter avec ton Bitcoin,
c'est pas grave.
L'échange.
C'est pas grave, mais si en fait, pourquoi je te dis quand t'investis dans les cryptos, tu mets du Bitcoin, parce que au cas où un jour les autorités financières décident d'interdire les cryptos, toutes les cryptos vont tomber. Mais Bitcoin marchera toujours. Donc à un moment donné, les utilisateurs de Bitcoin, et il y en aura encore et de plus en plus, c'est la seule monnaie qui tiendra face à une chute énorme. Et à côté de ça, Ethereum, pourquoi Ether? Parce que aujourd'hui Ether, c'est c'est une blockchain qui est la plus utilisée, et en fait c'est tout tourne sur Ethereum, toutes les applications blockchain tournent sur Ethereum, une majeure partie. Donc c'est pour moi, Ethereum dépassera Bitcoin dans quelques années, donc c'est un truc qu'il faut avoir dans son portefeuille.
Bon, on parlait de guerre et
merci pour cette petite parenthèse.
Non, mais bon, c'est l'actualité. Alors du coup, ça fait une transition un peu étrange, parce que je vois l'heure qui tourne et je voulais conclure notre super échange avec toi, Jérémy, par la question comment t'as fêté le deal. Donc sans transition pour le coup. En famille.
C'est ça. Ça, c'est mes origines maghrébines qui reviennent, tu sais.
Tu vois, papa, j'ai tout compris. Non, vous avez vraiment fêté ça avec Jérémy, la famille, ou en vrai, vous êtes allé tout de suite sur la vie d'après et...
Eh ben, on idéalise une vente, on l'idéalise, on se dit on va le fêter, mais au final... Pas de grosse soirée du tout, on est resté les pieds sur terre, on a sûrement fait un dîner avec ma famille, mais tu sais, nous, on se retrouve tous les vendredis soirs en famille avec mes parents, et donc on le fête, si tu veux, toutes les semaines. Donc c'était un moment en plus de fêter quelque chose, mais pas vraiment de moment spécial. Cette musique, parce que c'est une musique de joie pour nous, tu sais, quand on se marie, il y a souvent cette musique qui tourne au mariage, qui est un peu rigolote, donc c'est le moment un peu familial. Donc, quand je mets
plus
cette musique, je pense à la famille.
Plus la taffina que la teuf.
C'est ça. Voilà. Donc, quand j'entends cette musique, je pense en fait, si tu veux, à ma famille. Donc, je me rappelle que j'ai dû le fêter, mais je peux pas te décrire un moment, parce que c'est pas quelque chose qui m'a marqué, parce que j'ai tout de suite enquillé sur une deuxième activité, un deuxième truc, en me disant, bon, il y a eu le premier. Et aussi, c'est de se dire, quand tu fais une vente, est-ce que je réussirai à faire une deuxième? Est-ce que je suis vraiment bon pour en faire une deuxième? Est-ce que je suis... Tu vois, j'en ai réussi une, mais est-ce que c'était pas un coup de bol? Donc tout de suite, tu trop challenges.
Pour le coup, on a déjà un élément de réponse.
Bah ouais, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Et alors c'est cool ce qu'on a fait, mais du coup, tu te challenges. Et toujours aujourd'hui, est-ce que tu pourras faire plus? Et moi, j'ai un rêve. Je te partage mon rêve après. Je te le partage
maintenant.
Ou pas? Tu veux le savoir?
Oui.
Je le dis devant les auditeurs de Cash Out.
Ouais.
Ma prochaine à la boîte.
Vas-y.
Ce sera un club de foot.
Ok.
Ce sera un club de foot, et j'ai un rêve, parce que moi je suis un supporter parisien. Je suis un supporter du PSG depuis que je suis petit, mais j'ai une frustration de voir le Qatar qui a racheté le PSG, qui a détruit, si tu veux, l'ADN parisien. Moi, quand j'allais au stade avec mon grand-père quand j'étais petit, je voyais les joueurs de foot, les joueurs formés à Paris. J'ai connu les moments difficiles avec le sauvetage de Ligue 1 avec Amara Diané contre Sochaux, etc. Je suis un vrai supporter parisien. Et là, le Qatar, le PSG d'aujourd'hui, si tu veux, il me... Vas-y, excuse-moi.
Non, vas-y.
En fait, il manque cet ADN de... En fait, d'entreprise. Il manque cet ADN de, si tu veux, en fait, ils ont créé une entreprise, mais ils ont perdu l'âme. Il y a plus d'âme à Paris. Et c'est un peu comme quand tu montes une boîte, tu crées une entreprise, tu essaies de créer une âme, d'impulser quelque chose, et ils ont tout perdu en injectant de l'argent. Et j'aimerais créer un club. Moi, c'est mon ambition, c'est de racheter un club de Paris. Le Racing Club de Paris en division 5, par exemple.
T'as le Red Star, t'as le Paris FC.
Et de l'amener.
Le monter en Ligue 1. Mais j'ai une règle. Si tu veux jouer dans mon club, il faut obligatoirement que tu sois né en Île-de-France. Un peu comme ce qui se fait à Bilbao, dans les Pays Basques, en Espagne, t'as des joueurs formés à Bilbao. Et ben, je veux la même chose, un club parisien par des Parisiens.
Et qui va remporter la Ligue des Champions?
C'est sûr, à 100%.
Non, c'est que...
Je croyais que t'allais mettre la musique du champion.
Mais non. Oui, non,
mais c'est les rêves ultimes. Et j'y arriverai parce que All I Do Is Win. Tu vois, tu l'as mis.
Et ben, c'est comme ça que j'allais te proposer de conclure. C'était un vrai plaisir de te retrouver, Jérémy.
Yes.
Et le rendez-vous est pris, le sait pas encore, bah, déjà avec Franck pour nous parler de la LBO.
Yes.
Et peut-être avec Pierre, le fameux,
c'est
avec
ça.
Qui tu nous mettras
exactement.
En relation. On peut pas se quitter. Alors, d'habitude, je finis avec la dernière chanson, mais là, je crois qu'on a un gimmick. Hein.
Ouais, c'est ça, on est d'accord. Hein.
Merci, Jérémy.
Merci à vous. And they stay there. Won't stop now. Whoa. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. Whoa. I never went nowhere. What they saying, Luda's back. Yeah. Blame it on that